Décryptage, Sébastien Farcy.
Il y a 50 ans, jour pour jour, l'armée des Khmers Rouges entre dans Phnom Penh et s'empare du pouvoir au Cambodge. Ils sont accueillis avec ferveur par la population exténuée. Depuis des années, la guerre du Vietnam déborde en effet sur ce pays voisin. Mais le tournant devient vite effroyable, car les Khmers Rouges et leur organisation communiste de Langkar lancent une nouvelle guerre, interne cette fois-ci, contre ce qu'ils appellent le peuple ancien. Ces intellectuels que l'on doit éliminer pour laisser émerger le peuple dit « nouveau », les Khmers rurales, censés être plus purs. C'est une épuration sociale qui commence, un génocide, comme le qualifiera en 2018 le Tribunal international spécial. En moins de 4 ans, plus de 1 700 000 Cambodgiens seront affamés, torturés, massacrés, soit un quart de la population du pays. 50 ans après, ces crimes continuent à hanter les Cambodgiens, surtout que seulement 3 dirigeants Khmer Rouge ont été condamnés. Des milliers de chefs locaux, ceux qui ont terrorisé la population, n'ont eux pas été inquiétés et continuent parfois à vivre près de leurs victimes. Alors comment juger ce génocide? Peut-on y arriver? Jusqu'où aller pour éviter que cela se reproduise? Et par-delà la justice, enfin, comment guérir de ces traumatismes? C'est ce que nous allons voir ce soir dans Décryptage. Et pour répondre à ces questions, deux personnes sont avec moi ce soir en studio. Arnaud Vollerin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Libération, responsable de l'Asie. Et Anne-Yvonne Guillou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, directrice de recherche du laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative à Paris-Nanterre, rattachée au CNRS. Mais avant cela, avant que nous engagions la conversation, je vous propose d'écouter Norg Chanpal. Il est l'un des rares rescapés de S21 à Phnom Penh. Quand il entre dans cette terrible prison, il a alors que 9 ans.
Lorsque le portail s'est ouvert, 4 ou 5 hommes armés ont crié et ordonné à ma mère de descendre du camion. Comme elle était très malade, elle ne pouvait pas marcher vite. Alors ils l'ont poussée par terre. J'étais terrorisé. Ils l'ont envoyée dans une pièce où ils l'ont prise en photo et l'ont interrogée. Ma mère ne comprenait pas bien toutes les questions. Alors ils l'ont torturée, lui ont donné des coups de pied sous mes yeux. J'ai couru vers elle et je l'ai prise dans mes bras pour la protéger. Alors moi aussi, ils m'ont donné des coups de pied dans le dos. 5 ou 6 ans plus tard, dans l'orphelinat où j'étais, mon dos me faisait encore mal.
Arnaud Vollerin, je me tourne vers vous d'abord. Vous revenez de reportage au Cambodge, vous signez justement un dossier spécial dans Libération, un sujet qui donne la parole à ces rescapés du génocide. Alors S21, on l'entend par ce rescapé, une prison, un centre de torture, mais ce n'est qu'un des lieux du génocide, peut-être le plus connu. Dans tout le pays, et vous l'avez entendu avec les rescapés, le massacre a été systématique pendant ces près de 4 années contre justement ce que les Khmers Rouges voulaient combattre, ce peuple nouveau.
Oui, effectivement, vous avez raison. La S21 est le lieu le plus emblématique, avec son site d'exécution à Chuang Hek, dans le sud de la capitale. Et je voulais, une fois n'est pas coutume, ne pas m'arrêter à S21 et d'aller effectivement sur les routes du Cambodge pour aller voir ces lieux où on parle moins de ces massacres de masse. Et je me suis rendu compte, à ma très grande surprise, à mon effarement, certains moments d'ailleurs, que le souvenir était encore très vif, même 50 ans après. Et qu'il y avait encore des lieux où les faits n'étaient pas établis, les faits n'avaient pas été documentés. Je pense notamment à une pagode avec laquelle j'ouvre le reportage d'ailleurs, la pagode de Wat Ek Nom, du côté de Battambang, au nord de Battambang, où là il y a une fois encore, c'est tout le problème d'ailleurs de ce bilan et de cette crise, enfin de ce génocide, c'est qu'il n'y a pas encore de bilan précis sur certains endroits, et notamment dans cette pagode. Et on parle de plusieurs milliers. Et on rencontre des gens qui sont encore effectivement très émus, très, très perturbés, qui ont encore un ressenti quasiment à vif quoi, sur des sensations, sur des souvenirs. Des gens qui vivent avec des fantômes, par exemple. Alors je sais que c'est quelque chose qui nous surprend, nous, en Occident, qui est assez répandu quand même malgré tout au Cambodge. Mais ils vivent avec ces fantômes qui viennent de ce passé, qui est un passé très difficile, très lourd encore à gérer, et c'est ce qui m'a vraiment, moi, saisi. Alors qu'une fois encore, je pensais que c'était effectivement réglé.
On parle d'une déshumanisation complète, séparation des familles, interdiction d'enterrer, interdiction de crémation, donc de rendre... Donc il y a vraiment l'idée d'éliminer toute trace.
C'est une utopie meurtrière totalitaire, totalement totalisante et totalitaire, radicale, avec effectivement la suppression des liens de parenté, la famille n'existe plus, il n'y a plus de lien entre les générations, on sépare les enfants, on sépare les parents, les sexes. Et ça va très loin, ce processus, qui est un processus évidemment génocidaire, ça va non seulement sur l'éradication des gens, l'extermination des gens, mais on va jusqu'à effacer leur trace, leur mort, le souvenir de la mort et même ce qu'ils ont été. Donc c'est un projet qui n'a pas beaucoup d'équivalent en fait, mais qui vise effectivement à effacer. Il y a un terme, je parle sous le contrôle d'Anne Guillou qui connaît ça mieux que moi et qui parle le Khmer à ma différence, le terme Kamtek qui signifie ça. C'est l'effacement, on efface toutes les traces et on oublie même, on va effacer jusqu'au souvenir de la personne. Donc c'est vraiment quelque chose de très radical.
Un processus totalitaire d'ailleurs qu'on a comparé justement à d'autres génocides totalisantes, créer un peuple nouveau donc, et exclure celui qui n'est pas là. Donc malgré cela, malgré donc la preuve et les témoignages, les nombreux témoignages, la justice, elle, a été très longue à se mettre en place. D'abord car la guerre a continué après la chute du régime en 1979, surtout aussi car d'anciens Khmer Rouges ont toujours été depuis dans le gouvernement, le plus fameux étant Hun Sen, et Premier ministre pendant 24 ans, dont les enfants même prennent le relais aujourd'hui. Alors un tribunal est finalement installé en 2006, Arnaud Vollerin, c'est un tribunal hybride.
Oui, un tribunal hybride, c'est-à-dire composé à la fois de magistrats cambodgiens et de magistrats internationaux. Ce tribunal, sa création a été très longue, ça a duré une dizaine d'années, voulu au départ par les États-Unis. Le pouvoir cambodgien de Hun Sen, vous l'avez mentionné, le Premier ministre, s'y est résigné un peu contraint, et puis ça l'arrangeait aussi parce que ça permettait, dans sa politique de réconciliation, peut-être effectivement d'évacuer les plus emblématiques leaders Khmer Rouge, de les juger, de pouvoir ensuite passer à autre chose. Mais processus de 10 ans, qui a mis beaucoup de temps, avec effectivement une indépendance de la justice cambodgienne très limitée, pour dire les choses avec beaucoup d'euphémisme, une intervention en tout cas du pouvoir politique dans le processus judiciaire, et on est arrivé à l'ouverture des procès qui a démarré uniquement en 2008.
C'était un tribunal international, mais qui était à Phnom Penh. Ça, c'est une grosse différence, composée de magistrats internationaux et cambodgiens.
Le grand débat a été, en fait, avec la communauté internationale, pour dire les choses rapidement, et le pouvoir cambodgien, a été un bras de fer, puisque le pouvoir cambodgien insistait pour que sa souveraineté, disait-il, soit respectée, c'est qu'il y ait à la fois des magistrats cambodgiens dans les procédures, d'une part, et d'autre part, vous avez raison de mentionner, que ce tribunal soit installé directement dans le pays, donc à Phnom Penh.
Et donc trois dirigeants ont été finalement condamnés pour quel crime ?
Alors, Douk, qui est le directeur de S21, le centre de torture et d'extermination à S21 que vous mentionnez au début de l'émission, lui a été condamné pour crime contre l'humanité. Perpétuité, il est mort aujourd'hui. Les deux autres dirigeants, c'est Nguyen Chi, qui est l'idéologue ou frère numéro 2, et Kyo Sampan, qui était le président du présidium de l'État, une sorte de chef de l'État, si vous voulez, et qui, eux aussi, ont été condamnés non seulement pour crimes contre l'humanité, et également pour génocide en 2018.
Et pourtant, certains, ils ont témoigné juste avant le procès, comme Kyo Sampan affirme qu'il ne savait pas tout ce qui se passait sur le terrain. Nous sommes dans les années 70. Ils auraient été déconnectés, aveuglés, il faut dire, par leur idéologie. La machine se serait emballée au niveau local, disent-ils, menée par les petits chefs locaux qui ont semé la terreur, ça c'est sûr, et qui, eux, n'ont pas été jugés. Que pensez-vous justement de cette éventualité, Arnaud Vollerin, du fait qu'ils ont été peut-être aveuglés, qu'ils n'ont pas vu ce qui se passait sur le terrain?
Les Khmer Rouges, à commencer par Douk à S21, mais également Nguyen Chi ou Kyo Sampan, même si Kyo Sampan était le visage lisse, présentable, diplomatique du régime de l'encart de Khmer Rouge, ont été présents quand même à de très nombreuses réunions. Enfin, surtout, je parle de Nguyen Chi et de Kyo Sampan. Ils ont fait des visites de chantiers où les gens étaient esclavagisés. Je pense notamment au très grand barrage de Kamping Puo, où je suis allé d'ailleurs pour le reportage dans l'ouest du pays. Il y a eu également le fameux aéroport qui a été construit à Kampong Chhnang, au nord-ouest de Phnom Penh. Donc il y avait à la fois des visites de terrain, il y avait des décisions, il y avait des discussions politiques auxquelles ils étaient présents, notamment le bureau politique du PCK. Il est quand même très difficile de croire, dans un système qui était quand même très pyramidal, très surveillé, etc., de croire qu'il n'ait pas eu accès à tous les éléments de ce qui se passait réellement sur le terrain. Alors, effectivement, il y a eu des zones, vous avez raison, où les massacres ont été moins importants, D'autres, en revanche, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec Nguyu, dans l'ouest du pays où les massacres et l'extermination étaient beaucoup plus massives, beaucoup plus violentes. Donc il y avait effectivement du zèle peut-être au niveau local. Mais l'ensemble, l'entièreté du processus génocidaire, la logique qui était derrière, était effectivement, avait été décidée en amont depuis longtemps. Même si les événements, la prise du pouvoir en 1975 s'est précipitée d'une certaine manière. Mais néanmoins, il y a des éléments qui sont là, il y a des décisions, il y a des documents qui prouvent qu'il y avait bien un processus, un procès, un projet d'éradication.
Donc la justice s'est concentrée sur ces trois figures, une justice peut-être symbolique, imparfaite en tout cas, politique, une tâche trop grande. Alors Anne-Yvonne Guillou, je me tourne vers vous. Les Cambodgiens sont donc laissés devant ces lacunes, le fait qu'eux-mêmes ont vu les dirigeants locaux les tuer ou en tout cas massacrer leur famille et eux n'ont pas été touchés. En tant qu'anthropologue, vous êtes penché sur la manière dont ces Cambodgiens essayent aujourd'hui de se reconstruire autrement que par la justice et seulement. Vous sortez d'ailleurs ces jours-ci un ouvrage, le fruit d'un travail de terrain de plus de 10 ans au Cambodge. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez appris sur les différents processus de résilience que les Cambodgiens adoptent aujourd'hui?
Alors oui, voilà, j'ai essayé de faire une enquête un peu différente. Bon, Arnaud Vollerin vient de tracer parfaitement ce qu'était le régime Khmer Rouge. Et puis, il y a la population et il y a ce que la population a fait, dont on entend finalement peu parler. Donc finalement, j'ai adopté une attitude d'anthropologue. Et je me suis efforcée de m'intégrer dans un village de l'ouest cambodgien, dans une zone qui a beaucoup souffert, la région de Pol Sat, qui a connu deux déportations massives. La première déportation de Phnom Penh, une deuxième déportation du sud-est en 78. Et puis, je me suis tue. Voilà. D'habitude, on pose des questions. Et puis, quand on se tait, eh bien, on regarde et on écoute. On écoute les conversations courantes, on écoute les papotages, on va au monastère bouddhiste, qui sont des lieux assez ouverts, on entend les conversations, on discute avec ses voisins, etc. Et quand on fait ça, on essaie simplement de voir affleurer, qu'est-ce qui affleure finalement du passé au quotidien. Ou qu'est-ce qui n'affleure pas finalement? Qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? À quel moment? Et comment surtout on surmonte cette fracture énorme qui vient d'être décrite? Alors bon, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses qui font qu'au quotidien, il n'y a pas de tabou, hein, contrairement à ce qu'on entend parfois. Ça affleure effectivement, il suffit d'un son, il suffit d'un goût, il suffit d'une odeur pour entendre. Tiens, c'était comme ça aussi sous Pol Pot. Voilà, c'est une façon de voir affleurer au quotidien. Et puis, il y a plein de pratiques qui ne sont pas dites, en fait. D'où un documentaire, d'ailleurs, que j'ai réalisé, qui s'appelait « Untold Memories of Cambodia », les mémoires silencieuses. C'est-à-dire, pour citer un exemple, alors, il peut sembler un peu loin de nos préoccupations dans la société française. On est dans la société cambodgienne, qui est une société avec une vision animiste et bouddhiste du monde, aussi hindouisée. On parle par exemple beaucoup des lieux, enfin, ces villageois avec qui j'ai travaillé, mais c'est vrai aussi en ville, hein, il n'y a pas de fracture ville-campagne de ce point de vue-là. Les gens pensent qu'il y a une certaine énergie positive qu'on appelle la Boromei, par exemple, qui protège le pays, qui protège les Cambodgiens et qui les porte en quelque sorte. Et l'idée, c'est que cette force, cette puissance, cette énergie a été extrêmement diminuée par le régime Khmer Rouge. Donc c'est une façon de parler des choses, mais non pas de son point de vue personnel, de sa souffrance personnelle, mais à partir des lieux d'une certaine
façon.
Donc
c'était une période sombre qui était due en partie aux énergies, qu'aujourd'hui, est-ce que cela les aide
L'idée, c'est justement que cette Boromei a été extrêmement diminuée par les destructions, par les destructions de temples, par les destruction de statues, par les massacres, etc. Et que beaucoup d'efforts consistent aujourd'hui, par exemple, à faire ressurgir cette énergie. Donc il y a tout un ensemble de pratiques qui ne sont pas dites, qui sont discrètes, qui ne sont pas documentées habituellement, parce qu'on s'intéresse plutôt au discours, finalement. Mais voilà, dans des tas d'endroits, les gens reconstruisent des statues, reconstruisent des temples bouddhistes, font des offrandes à certains esprits tutélaires, esprits protecteurs de territoire, et finalement ont une approche un peu collective de leur revie, je ne sais pas comment on dit, de leur
renaissance.
De leur renaissance, de leur façon de revivre. Et bon, voilà un exemple, par exemple. Vous voyez, au quotidien,
c'est une manière plus spirituelle.
On pourrait le dire comme ça, mais ça prend des formes extrêmement concrètes dans le quotidien, en fait.
Et est-ce que cela les aide dans ce que nous, on imagine, et ce qu'on entend, c'est les traumatismes. Donc, est-ce que cela les aide à dépasser ce que la psyché peut emmagasiner, ce traumatisme? On comprend qu'il peut y avoir une explication qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas la nôtre. Punition, crime purement humaine, donc c'est une punition peut-être divine, c'est une énergie cosmique. Est-ce que cela les aide à réparer, à se réparer?
Bon, dans cette énergie-là, il n'est pas question de punition, hein, c'est plus une question de reconstruction. Bon, il y a eu des faits de justice expéditive juste après le régime Khmer Rouge. Hein. Tout ça n'est pas du tout antagoniste. Hein. Tout ça n'est pas du tout contradictoire. Il y a eu une justice, y compris dans le village où je travaille, une justice expéditive. Certains, d'ailleurs, plutôt que de distinguer entre la hiérarchie des cadres, on distinguait plutôt ceux qui ont commis des exactions et qui, en général, sont partis dans la dernière région, le dernier bastion des Khmer Rouge à Nong Veng. Et puis, il y a ceux qui sont restés sur place, à qui on n'avait pas de reproches majeurs à faire. Ceux qui ont commis des exactions et qui sont restés sont aujourd'hui mis au banc de la société locale, etc. Donc, il y a aussi des formes de justice.
Est-ce qu'il y a un regain de spiritualité du fait, justement, d'essayer de comprendre ces drames de manière spirituelle? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un regain de spiritualité dans les campagnes?
Non, je ne pense pas. Moi, je crois profondément que la culture cambodgienne, qui est extrêmement riche, qui a une capacité de symboliser, hein, de symboliser, comme diraient les psys, de symboliser ce traumatisme, a aussi permis de trouver des ressources, y compris dans le traitement des défunts. Hein. Bon, j'en parle pas ici, on peut pas tout dire, mais dans le traitement des défunts, qui ont été traités d'une façon exactement opposée à ce qu'on a fait au tribunal des Khmer Rouges, c'est-à-dire plutôt que de considérer une catégorie de victimes à part qui doit être prise en charge, on a considéré que les morts du génocide devaient être réintégrés dans le flux global des défunts et être traités de la même façon que tous les défunts. Donc voilà, on est là aussi dans une autre conception de ce que doit être le traitement des défunts. Prendre soin des défunts, c'est aussi leur permettre d'entrer dans le flux des renaissances, en tout cas pour les bouddhistes, qui représentent 90% de la population. Et prendre soin d'eux, notamment au cours d'un immense rendez-vous annuel entre les vivants et les morts, qui a lieu tous les ans.
Arnaud Vollerin, pour conclure, est-ce que vous pensez que la nouvelle génération, les moins de 30 ans qui ont pas connu et composent l'essentiel de la population,
trois quarts, oui.
Et quelle est la mémoire qu'ils gardent? Comment est-ce qu'on travaille maintenant cette mémoire? Et est-ce que cette nouvelle génération peut maintenant vivre après,
il y a une urgence, je pense, qui est de... La mémoire n'est pas une priorité, il faut dire les choses clairement. Il y a une envie d'aller étudier à l'étranger, de gagner bien sa vie, de pas se coltiner ce lourd passé des parents et des grands-parents. Néanmoins, il y a eu des efforts qui ont été entrepris, notamment, je pense, à celle de Bopana, le centre Bopana, qui a lancé une application pour travailler sur les questions de justice, pour savoir ce qui s'était passé pendant l'époque Khmer Rouge. Le tribunal est en train de faire actuellement d'envoyer un bus dans toutes les campagnes pour commencer à faire une communication sur ce qu'il a fait, sur les trois procès, sur ce passé Khmer Rouge également. Et l'école, le collège et le lycée, a commencé justement depuis les procès. C'est l'un des grands mérites de ce procès. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'en est un, où il y a eu effectivement une sorte de prise de conscience au niveau du pays, de la société civile, pour commencer à s'intéresser à ce passé et à l'enseigner au collège et au lycée.
Un travail de mémoire qui sera long, mais l'essentiel pour se souvenir de ce génocide, je rappelle, qui a fait 1 700 000 morts au moins. Anne-Yvonne Guillou, merci. Je rappelle votre ouvrage qui sort ces jours-ci, fruit d'un travail de terrain de plus de 10 ans, Puissance des lieux, présence des morts, sur les traces du génocide Khmer Rouge au Cambodge. Et je revois aussi au très beau dossier signé par Arnaud Vaud.